L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maddy Mercier, qui fait partie de l'association ACF. Elle va vous expliquer et elle va déjà se présenter un petit peu à vous et vous présenter ACF. À toi.
Merci Marie-Claude. Bonjour tout le monde. Alors, je suis bénévole à Action contre la faim, département de l'Hérault. J'ai rejoint cette association et finalement il y a peu de temps, seulement 2 ans. Pour ceux qui me connaissent peut-être un peu, certains vont me reconnaître. Voilà, j'étais infirmière au CHU, bénévole aussi à Médecins du Monde et depuis peu donc Action contre la faim. L'association est présente sur le département depuis une bonne dizaine d'années, avec un petit nombre de bénévoles et quelques activités qui sont très en lien avec les campagnes mondiales, internationales. Alors, tout simplement, la campagne de l'eau, la campagne d'alimentation, le droit des femmes, voilà, et plein de campagnes mondiales. Je viens aujourd'hui vous présenter un déplacement qui nous a été proposé par le siège Action contre la faim à Paris pour les personnes voilà, qui ont cette responsabilité de référent dans le département. Et le pays pour lequel nous sommes partis à 3 délégués et une personne salariée du siège, en Jordanie. Alors pourquoi la Jordanie ?
Et oui, parce que moi, la Jordanie, pour moi, c'est déjà Petra, la touriste que je ne suis pas d'ailleurs, je suis plutôt une voyageuse qu'une touriste, mais enfin voilà. Et en même temps, c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas... Il était connu il y a quelques décennies parce qu'il y avait un roi qui faisait pas mal parler de lui à l'époque dans les médias, mais c'est vrai que c'est un pays pas très connu et c'est un petit pays, si je crois pas me tromper.
Alors oui, je vais être
très encerclé en plus.
Alors il est surtout très encerclé. Mmh, voilà.
Tout à fait.
C'est un pays qui fait 90 000 km². C'est un pays aujourd'hui qui a 12 millions d'habitants. Plus de 90% de ces personnes vivent en zone urbaine, faut le savoir. C'est quand même un pays plutôt désertique, hein, très désertique. La capitale Amman compte à peu près 4 millions d'habitants. La langue officielle du pays, c'est l'arabe, mais on parle très, très régulièrement et l'anglais est très répandu. La religion est une religion d'État, l'islam sunnite, et on compte 5% de chrétiens partagés dans le pays. Les pays voisins,
parlons-en.
L'Irak, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Israël, et puis il ne faut pas oublier les camps palestiniens qui sont...
La Jordanie.
En proximité.
La Palestine, quoi, un petit
voilà,
peu.
Voilà, donc ils sont en proximité de la Jordanie. Ce pays est coupé, on va dire, avec le côté israélien par la rivière le Jourdain, dont on parle peu, finalement, mais dont on pourra reparler tout à l'heure, et qui est la seule possibilité d'apporter de l'eau dans ce pays. Et aujourd'hui, la Jordanie est reconnue, entre guillemets, comme étant le 5e pays au monde en manque d'eau. Voilà, donc ça c'est quand même difficile parce que l'eau est plutôt rare dans cette région et surtout très convoitée. 98% des produits consommés en Jordanie sont importés.
C'est énorme.
Ce qui est énorme, voilà. L'agriculture, aujourd'hui, emploie seulement 2% de la population. L'économie, elle tourne autour du tourisme, tout ce qui concerne les services aux personnes. Et il y a un petit peu d'exploitation de phosphate, mais il n'y a pas de pétrole. Pas de pétrole dans ce pays. Alors, la Jordanie, il faut le dire, donc un royaume qui a été mis en place en 1946. Il semble que ce pays soit encore le plus stable de la région. Il est entouré quand même par des voisins oui. qui peuvent le perturber.
C'est pour ça que j'avais dit encerclé même, parce que vraiment, pour arriver à être calme dans une région pareille, relativement calme, c'est rare.
Voilà. Donc la Jordanie a toujours été un pays d'accueil, mais aussi de transit. Les premières personnes accueillies, ben, ce sont les réfugiés venant de Palestine en 1948, oui. Aujourd'hui, alors, comment vivent les gens dans le pays? Eh bien, malheureusement, 25% des Jordaniens sont au chômage. Aujourd'hui, on considère que le salaire moyen des Jordaniens oscille entre 520 et 600 euros, à peu près, que le salaire à minimum est autour de 300 euros, que le coût de la vie est très, très important. Pour une famille de 4 personnes, on considère hein, qu'il faut autour de 800 euros pour vivre par mois. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Il faut des moyens. La Jordanie est le 94e pays où le coût de la vie est le plus cher dans le monde. Aujourd'hui, 80% des réfugiés vivant dans ce pays sont endettés. Alors, le côté positif, c'est que les Jordaniens qui bossent ont une couverture sociale, ils ont une mutuelle, et ils peuvent prendre leur retraite, financer à la retraite. Mais alors, vous allez peut-être sourire. La retraite en Jordanie, elle est de 60 ans pour les hommes et de 65 ans pour les femmes.
Oui.
Voilà.
Oui.
Les salariés en Jordanie aujourd'hui, eh bien, font partie plutôt du secteur public. Ce qui correspond à peu près à 51% des salariés. Mais ce pays tend vers la privatisation de plus en plus. Dans ce qu'on a été un petit peu informé, il faut savoir que les 51% de salariés travaillant dans le public, voilà, c'est un pays quand même qui est toujours sur ses gardes hein, avec les voisins tels qu'ils ont. Et qu'on signale qu'une à deux personnes par famille travailleraient pour l'État par le biais bon, de la police, de la gendarmerie, d'être militaire. Voilà.
Oui. Donc, pour se résumer, Maddy, c'est un pays quand même qui n'est pas dans un essor économique voilà, hein, terrible, si ce n'est un peu, vraiment beaucoup même, je pense, son activité touristique. Et c'est un pays qui, en plus, étant encerclé, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a quand même pas un essor. Voilà. Et vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené donc là-bas et qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement dans ce pays ?
Alors, ce qui est proposé par Action contre la faim au niveau national, c'est de permettre aux bénévoles des régions en France de pouvoir aller faire une visite terrain. Oui. Puisque, bon, moi j'ai eu cette chance hein, de le faire auparavant, mais nombreux de mes collègues qui ne sont pas dans le domaine de la santé n'ont pas connaissance de programmes portés à l'international par les ONG. Et du coup, ACF nous propose de faire une visite. Et du coup, voilà, c'est la Jordanie qui y a été... proposé pour l'équipe de 2023. Donc, c'est un voyage par an et par personne, on va dire. Voilà.
D'accord.
Les programmes portés par ACF au niveau international, alors je vais peut-être vous les décliner rapidement. Eh bien, ACF s'occupe de tout ce qui va être la sécurité alimentaire et les moyens d'existence pour permettre au pays, aux gens des pays, de pouvoir manger et de manger correctement. Ça va être tout ce qui va concerner l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, donc les programmes WASH. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux problématiques santé mentale des populations qui sont dans ces états de crise, alors qu'elles soient liées au conflit, qu'elles soient liées au réchauffement climatique, qu'elles soient liées à des urgences. Et ACF a ce type de programme en Jordanie. Et puis, comme tout programme, hein, il faut évaluer ce que l'on a fait et essayer de pérenniser nos actions sur le terrain. Donc, voilà ce que.
Oui, donc des expertises qui semblent naturelles d'ailleurs, hein, puisque.
Tout à fait.
Qu'on est vérifié qu'on est bien d'accord sur la dépense des investissements.
Et voilà. Et du coup, pour avancer un peu sur la Jordanie. Donc, ACF est dans le pays depuis 2013. Aujourd'hui, les programmes sont basés... Enfin, on va dire, la responsabilité est portée par un expatrié une expatriée, du coup, qui est d'origine américaine, mais tout le travail fourni par ACF est fait par des Jordaniens. Donc, pour dire que ACF privilégie le choix d'embaucher des personnes compétentes ou de les former sur place et d'envoyer le moins possible d'expatriés. Alors, peut-être que certains expatriés viennent, mais c'est pour une expertise très spécifique afin d'orienter, d'améliorer les programmes. Donc, en Jordanie, 70 salariés pour ACF. Et les programmes sont divers, enfin, sont sur plusieurs grandes villes. On est sur 5 villes différentes. Donc, sur Irbid, qui est pas très loin de la frontière syrienne. El Mafraq, qui est un petit peu en dessous. Al-Zarqa, Madaba et tout ce qui est Zarqa, voilà. Et c'est vraiment dans le nord supérieur, on va dire, du pays où se trouvent les programmes d'ACF, quoi, voilà, oui, actuellement. Donc, peut-être plus précisément ce que l'on a fait, peut-être. Donc, oui, pour nous, c'était important de savoir où mettait les pieds, entre guillemets. Donc, nous avons passé une journée avec toutes les équipes salariées d'ACF à Amman, au bureau. Et ils nous ont présenté, les uns et les autres, donc, les différents programmes et les activités exactement comment ils font, comment ils pratiquent au quotidien. Alors, sur les programmes WASH, par exemple, eh bien, c'est d'améliorer l'accès à l'eau et aux toilettes, enfin, à l'assainissement des réfugiés syriens, mais aussi des Jordaniens vulnérables, puisqu'il y a quand même 25% de Jordaniens au chômage et qui n'ont pas de sous, on va dire. Alors, comment on fait ? Ben, c'est réhabiliter et en étendant les réseaux d'eau, de gérer tout ce qui va être les eaux usées, puisque ça, c'est quelque chose dont on ne sait pas faire là-bas, et en collaboration avec le gouvernement, mais aussi des acteurs privés qui s'occupent de l'eau dans le pays. Ça, c'est plutôt sur la ville d'Irbid. Alors, très important aussi, on est dans cette idée de changement de comportement des personnes que l'on va accompagner. Donc, c'est amené à un changement de comportement des foyers pour une meilleure gestion de l'eau. Ça, voilà, il y a des robinets qui fuient ou des tuyaux qui fuient. Il faut les amener à réfléchir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, de changer de comportement sur une manière durable en lien avec des associations locales, puisque à terme, ce sont les associations qui prendront le relais. Alors, ça va être aussi du soutien de projets d'aménagement de bassins pour réduire l'érosion des sols. Donc ça, c'est dans une autre ville, à Madaba. Donc là aussi, il faut penser à l'avenir dans ce pays, avec ou sans réfugiés, on ne sait pas très bien. Et puis aussi, un lien très important, c'est de penser à la formation des acteurs locaux. Et il y a eu une création l'année dernière d'un master en eau, alors eau, assainissement, hygiène, avec Bioforce. Et le lien avec une université allemande en Jordanie. Donc voilà, c'est aussi de réfléchir, de ne pas travailler tout seul, travailler en réseau, en partenariat.
Oui, y compris, j'ai entendu que le gouvernement quand même est associé souvent à vos projets, enfin à certains des projets aussi.
Alors, ils sont associés,
en tout cas, voilà, il y a même un aval de...
Une volonté.
Voilà, une volonté, ce qui est quand même important. Alors, Maddy, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses et je suis sûre qu'on n'arrivera pas à tout dire. Je ne veux pas me décourager, mais je pense qu'on pourrait faire une petite pause musicale. En attendant, voilà, parce que c'est vraiment très dense, que rien que le programme de l'eau, déjà, on voit bien quand même le poids. Et donc, on s'est proposé de mettre comme musique, on a choisi toutes les deux, Maxime Le Forestier, Né quelque part. Voilà.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
L'homme est grand, l'espoir, il croit à ça. L'homme est grand. de passe-cour et des oiseaux de passage. Ils savoussent leur nid, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savoussent leurs œufs, être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. C'est qu'au endroit, à l'endroit où il
dort.
Est-ce que les gens naissent qu'au endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Et donc, voilà, nous étions en compagnie de Maxime Le Forestier, effectivement, avec Je suis né quelque part, en Syrie, en Jordanie, au Yémen. Et là, nous étions, ce matin, nous sommes en compagnie donc, de Maddy Mercier, qui est allé faire une mission d'exploration et de coopération en Jordanie, avec ACF, donc, voilà, Action contre la faim, et qui a énormément de choses à dire. Alors, on va essayer d'aborder un peu. Alors, on se disait qu'on pourrait quand même aborder un petit peu le problème de... De quoi vous vouliez parler,
peut-être tout ce qui va être en lien avec les déchets.
Avec les déchets.
Allez.
Voilà, puis après, après, on parlera des camps.
Alors, les déchets en Jordanie, c'est un vaste souci. Seulement 7% des déchets sont recyclés dans le pays.
C'est pas beaucoup. C'est vraiment ridiculement petit. Oui.
Et du coup, ACF essaye... une enquête avait été menée aussi auprès des petits agriculteurs, petits, je dis petits parce que ce sont des petits terrains, pour connaître un peu leur envie de cultiver avec des engrais bio ou ce volet-là. Et ça a été déjà identifié, cette affaire-là, depuis 2016, hein, que les agriculteurs avaient cette envie d'avoir du terreau, des engrais bio pour leur culture. Mmh. ACF a monté un projet financé par par le ministère une ONG allemande, et qui permet sur 2 ans... de salarier deux postes chez ACF, donc c'est un agronome et une ingénieure agricole qui ont fait le tour des agriculteurs, le but étant de récupérer tout ce qui va être les fumiers d'animaux, et tous les déchets verts. La commune de Darzac a prêté un terrain pour pouvoir mettre ces déchets et de pouvoir les transformer en compost. Pour cela, ACF, entre guillemets, embauche des Jordaniens plutôt pauvres et des réfugiés syriens qui arrivent du camp d'Arzat, dont on va parler après, permet d'être... Alors du coup, ces personnes peuvent être payées à la journée sous forme de cash for work, ce qu'on dit, et ça permet d'améliorer du coup la vie un peu de ces personnes. À aujourd'hui, il y a 500 tonnes de compost qui a été fabriqué sur ces 2 années, et c'est en cours actuellement d'être vendu. carrément, donc aux petits agriculteurs sur place. Et alors, ce qui est intéressant, le fait d'avoir un agronome et un ingénieur, ils ont réussi à préparer un engrais liquide qui sera spécialement utilisé pour les arbres fruitiers de ces agriculteurs. Donc, on dit que c'est quand même quelque chose de super positif.
Quand on a parlé tout à l'heure de la problématique de l'eau et puis quand même d'un pays relativement pauvre, modeste, donc c'est quand même intéressant.
Voilà. Donc, le but quand même de cette affaire, c'est d'améliorer l'autonomie des réfugiés, des communautés, afin de surmonter les difficultés socio-économiques, par justement en payant en cash, pour acheter les besoins nécessaires pour vivre tous les jours. Et ça permet surtout de réduire la pression des risques financiers des personnes. Ça permet de réduire le stress, qui est très, très important dans les camps de réfugiés. Ça permet d'amener peut-être à la résilience et d'assurer, du coup, la sécurité alimentaire. Donc, ça permet...
C'est quand même un bouquet de bienfaits, finalement,
on
tout ça.
On va le dire, oui.
Voilà. Alors, par contre, peut-être, on a parlé... Tu as évoqué plusieurs fois les camps. Alors, voilà, c'est important que tu nous parles des observations sur place, dans le camp.
Alors...
Je vois ta grimace, les auditeurs ne peuvent pas la voir.
Le camp qui nous a été permis d'aller visiter, entre guillemets, donc il a fallu obtenir les autorisations de l'État. C'est un camp qui a 100 km à peu près d'Amman. Qui est construit depuis 2013-2014, où sont à ce jour présents dans ce camp presque 40 000 personnes. Ils vivent dans des je ne sais pas trop comment dire, des bungalows en PVC ou en ferraille, qui ont en principe une durée de vie de 10 ans. Donc, vous voyez, on est déjà en 2023. Voilà. Donc, sur 15 hectares, ces 15 hectares sont entourés, puisque ces personnes n'ont pas l'autorisation de sortir du camp, sauf avec une autorisation signée de la police, qui est à l'entrée de ce camp. Les autorisations sont prévues pour les personnes malades gravement qui ont besoin d'une hospitalisation ou alors pour des salariés soutenus par ACF et d'autres ONG qui travaillent sur le camp pour leur permettre d'aller travailler à l'extérieur. Et du coup, ACF demande l'autorisation pour ces personnes qui vont travailler donc sur le centre de compost.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, bon, ça va permettre à moyen terme, peut-être, de leur donner une autonomie financière et de pouvoir sortir du camp.
Puis sortir, parce que quand même, ce sentiment d'enfermement, ça ne doit pas être évident à vivre.
Pas vraiment. Donc, ce camp est partagé en 5 villages. On va trouver donc tout le système d'accès à l'eau. Il y a 2 grands puits qui ont été construits. Or, c'est des puits qui ont été creusés à 300 mètres pour pouvoir avoir de l'eau suffisamment, sachant que les nappes phréatiques qui sont là où est pompée l'eau sont tarissables, puisque quand il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'eau. Voilà. Donc, il faudra réfléchir à d'autres solutions.
Oui, ça va.
Actuellement, il y a donc des panneaux solaires qui ont été installés sur le camp, qui fabriquent l'électricité et qui permet de ravitailler les familles et qui permet aussi de ravitailler en électricité les bungalows où sont présents les ONG, les agences onusiennes et les militaires et policiers qui vivent sur le camp à longueur d'année. Ça faut le savoir. Pour aller d'un village à un autre, les gens utilisent la marche à pied ou le vélo. Aujourd'hui, donc pas travail sur place, à moins d'avoir réussi à ouvrir une petite échoppe, ou alors ce sont des personnes qui sont salariées pour vendre les denrées principales qui arrivent sur le camp apportées par le PAM la plupart du temps. Et les personnes, donc elles reçoivent 30 euros par mois pour une famille, plus des petits tickets tickets resto chez nous, mais des tickets qui leur fourniront gratuitement le riz, la semoule, enfin ils mangent plutôt du riz, et les aliments de base. Voilà. Alors, la population, plus de 40%, presque 50% sont des jeunes de moins de 20 ans. Ces jeunes, alors qu'est-ce qu'ils font toute une journée? Eh bien, l'UNICEF est présent et a organisé sur chacun des villages différentes écoles, donc des écoles primaires jusqu'au bac. Mmh. Donc ça, c'est quand même super bien.
Ça, c'est bien, oui.
Ouais. Mmh. Pour les jeunes qui n'ont pas les capacités intellectuelles, on va leur proposer des formations sur le camp. Mmh. Là aussi, c'est UNICEF qui s'en occupe. Donc, ils ont possibilité d'apprendre un métier, couture, cuisine, coiffure, et puis après, tous les métiers du bâtiment. Et aussi, il y a un atelier réparation vélo, puisqu'on se déplace à vélo. Et ensuite, pour le jeune qui a cette capacité intellectuelle, donc il aura une demande d'autorisation et accompagné aussi par l'UNICEF pour pouvoir suivre l'enseignement peut-être dans les universités ou dans des cas supérieurs. Mmh. Voilà, mais ils sont vraiment très peu nombreux, mais il y a cette possibilité. Mmh.
Les femmes, des petites fenêtres là que nous ouvrons.
Légère. Futur. Ouais. Tout ce qui va être autour de la santé, c'est d'autres ONG qui s'intéressent et qui viennent faire des consultations sur le terrain. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, possibilité de sortir avec autorisation si nécessité, d'être hospitalisé. Ensuite, eh bien, alors si très très important, sur chaque village, il y a des espaces sportifs. Mmh. Et franchement, il y a des bons animateurs, des éducateurs, entre guillemets, qui s'occupent des enfants toute la journée. Et ils en ont besoin parce que des gamins sont nés sur le camp, d'autres sont arrivés à tout jeune âge dans le camp, ils arrivent à l'adolescence et quelles perspectives ont-ils dans leur avenir proche et un peu lointain? Ça reste une question qui n'est pas résolue, quoi. Ça reste entier, quoi.
Voilà. Oui, donc c'est quand même une situation. Quel sentiment ça vous a laissé à la délégation là, qui est partie là-bas? Ça vous a laissé quelle impression? Pour résumer, puisqu'on va être obligé...
Pour résumer, donc l'accueil des Jordaniens, moi je dirais c'est un accueil extraordinaire. Oui. Hein, franchement, c'est d'accord. Des gens très... On a été très agréablement surpris. On trouve comme chiffre presque 700 000 réfugiés officiellement recensés sur le pays, mais en réalité, il y en aurait le double. Quelles vont devenir ces personnes? Ça reste le mystère. Et pour nous, on reste sur notre faim, quoi, quand même, voilà. Hein, de se dire comment vont-ils faire, quoi.
Donc, on va rester très vigilant, Maddy. Est-ce qu'on peut, je pense que de toute façon, on sera amené à se revoir. Est-ce qu'on peut, comment on peut contacter ACF? Comment on peut proposer quelque chose? Il y a un site internet, il y a...
Alors, sur le département de l'Hérault, je peux donner l'adresse internet.
Hein. Oui.
Donc, en minuscule, le Hérault, sans accent, le département.
Oui, en minuscule.
Voilà. Action contre la faim, tout attaché en minuscule, .fr.
Voilà, c'est tout simple. Alors, héros@actioncontrelafaim.fr. Et nous, on va s'attacher à rester au courant, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces pays de Moyen-Orient. Et vraiment, ce témoignage était très important. Merci, Maddy Mercier, d'avoir témoigné. Et puis, peut-être qu'il y aura des communications, des conférences, je ne sais quoi, qui seront possibles aussi.
On va essayer. Mmh. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Voilà. Donc, trois petites infos rapides. Donc, le 28, il y a l'Assemblée diocésaine avec le CCFD, dont le Comité catholique contre la faim dans le monde et Terre solidaire, je crois que ça s'appelle aussi. Le 28, donc toute la journée, cette Assemblée diocésaine a lieu à la Maison diocésaine Avenue Saint-Lazare à Montpellier. Voilà. La deuxième information, c'est la MTM SI organise du 30 janvier au 10 février une expo de peinture au titre de Art, Femmes, Espoir. Et le vernissage de cette exposition aura lieu le 31 janvier à 18h30. Et donc, tout ça, ça a lieu à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela. Hein. Donc, expo peinture, art, femme, espoir, à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, du 30 au 10 février. Voilà, avec vernissage au 31. Et ensuite, donc, pour signaler aussi qu'il y aura des stands de la MTMSI et du CDTM
qui seront présents à la chaire UNESCO le 3 février. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Et puis donc, merci à la technique, Yann et Stéphane. Et voilà, n'oubliez pas, vous pouvez podcaster, si vous voulez, cette émission, Les Échos de la Solidarité Internationale de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. Vous pouvez podcaster, aller éventuellement sur le Facebook, etc., etc. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.